très grosse cérémonie.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous, vous êtes sur VOA Afrique, vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, édition de ce vendredi 12 janvier 2024. Nous émettons en direct de Washington DC, John Linden à la présentation de cette édition, produite par Fatouma Kalala Halimassi. Pour commencer, le sommaire. Le Burundi ferme sa frontière avec le Rwanda sous fond d'accusation de soutien à une rébellion. 15 personnes accusées de financement du terrorisme condamnées par un tribunal de Kinshasa. La Chine appelle au respect de l'intégrité territoriale de la Somalie. Et puis, ne ratez pas la Minute Éco et les sports. Nous retrouverons notamment Yacouba Ouédraogo et Bagassi Koura à Abidjan, où la CAN 2023 s'ouvre demain. Mais pour commencer, le journal. Le Burundi a annoncé hier la fermeture de la frontière avec le Rwanda après avoir accusé son voisin de soutenir un groupe rebelle qui a mené des attaques sur son sol. Les précisions avec Mouamadou Mfa.
Nous avons fermé nos frontières avec le Rwanda. Celui qui va tenter d'y aller ne passera pas, a déclaré le ministre burundais de l'Intérieur, Martin Niteretse, après avoir constaté que nous avions un mauvais voisin, Paul Kagame, un mauvais voisin, le président rwandais. Nous avons arrêté toute relation avec lui jusqu'à ce qu'il revienne à des meilleurs sentiments, a-t-il affirmé. Selon le Burundi, le groupe Résistance pour un État de droit au Burundi, ou Red Tabara, a lancé une attaque le 22 décembre près de la frontière avec la RDC, tuant 20 personnes, dont des femmes et des enfants. Le président burundais Evariste Ndayishimiye avait accusé le 30 décembre le Rwanda de soutenir les rebelles, des accusations démenties par Kigali. Le Rwanda regrette la fermeture unilatérale de la frontière par le Burundi, d'après un communiqué des autorités rwandaises qui précise que cette malheureuse décision va restreindre la libre circulation des personnes et des biens et viole les principes de coopération régionale et d'intégration de la communauté d'Afrique de l'Est. Les relations entre le Burundi et le Rwanda ont souvent été tumultueuses. Le Burundi a déjà fermé sa frontière en 2015, les deux pays s'accusant mutuellement de soutenir des mouvements rebelles. La frontière a été rouverte en 2022.
Un tribunal militaire à Kinshasa, capitale de la RDC, a condamné hier jeudi 15 personnes accusées de financement du terrorisme. Elles ont écopé des peines allant de 5 à 10 ans de prison. Lors du procès, le procureur a estimé qu'il n'était pas normal que ces personnes détiennent des masses d'argent non tracées. Les détails avec Alexandrine Hollognon.
Les prévenus sont 24, dont 5 en fuite. 9 personnes ont été acquittées. Les 5 en cavale ont été condamnés à 10 ans de prison et 10 autres ont été condamnés à des peines allant de 5 à 8 ans de prison. Les audiences de ce procès ouvert le 25 juillet se sont tenues à la prison militaire de Ndolo où étaient détenus 18 des prévenus. Un 19e prévenu a comparu libre, a déclaré maître Pascal Amani, porte-parole du collectif des avocats de la défense, qui a l'intention d'interjeter appel. Tous étaient poursuivis pour financement du terrorisme. Le 1er mai, une vingtaine de personnes ont été arrêtées à Bukavu, chef-lieu du Sud Kivu, lors d'une opération contre des acteurs ou complices présumés du commerce illégal d'or. Des militaires avaient alors fait une descente dans plusieurs comptoirs d'achat de la ville, saisissant or, dollars, coffres-forts et ordinateurs. Les personnes arrêtées ont été transférées à Kinshasa, la capitale, à quelques 2000 km à l'ouest.
3 travailleurs humanitaires de l'ONG française Première Urgence Internationale ont été enlevés dans le nord du Cameroun. C'est ce qu'a annoncé hier le groupe humanitaire Le Point avec Lionel Gaïma.
Première Urgence Internationale a confirmé que 3 membres de son équipe ont été enlevés dans la région de l'extrême nord du Cameroun. L'organisation qui mène des opérations sanitaires, alimentaires et éducatives au Cameroun depuis 2008 n'a pas révélé les circonstances de l'enlèvement ni les nationalités de personnes kidnappées. En octobre dernier, 40 personnes de nationalité tchadienne et camerounaise ont été enlevées près de Touboro dans le nord du Cameroun. Des bandits avaient ciblé et tendu une embuscade des commerçants alors qu'ils rentraient chez eux après avoir vendu du bétail au marché de Touboro. En février dernier, 5 membres de l'organisation Médecins sans frontières ont été libérés au Nigeria voisin un mois après leur enlèvement. La région de l'extrême nord est en proie depuis 2009 aux djihadistes de Boko Haram et de son rival, le groupe État islamique en Afrique de l'Ouest.
Les États-Unis ont nié jeudi être impliqués dans les activités de la société militaire américaine Bancroft en République centrafricaine, au moment où Bangui, lié depuis 2018 au groupe de mercenaires russes Wagner, tente de diversifier ses partenariats stratégiques. Répondant à une question de la presse, le service de communication de Bancroft avait reconnu fin décembre des contacts avec le régime du président Faustin Archange Touadéra, mais le groupe s'était dissocié des autorités américaines. Selon le quotidien français Le Monde, Washington avait proposé à Bangui fin 2022 un accord de sécurité en échange d'une prise des distances avec Wagner. Ni Washington ni Bangui n'ont confirmé ces informations.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
La Chine a appelé jeudi au respect de l'intégrité territoriale de la Somalie après un regain de tension suscité par un accord maritime signé entre l'Éthiopie et la région séparatiste du Somaliland. Le point avec Jean-Roger Billon.
Le Somaliland fait partie de la Somalie. La Chine soutient le gouvernement fédéral de Somalie dans la sauvegarde de l'unité nationale et de l'intégrité territoriale, selon un message publié de l'ambassade de Chine à Mogadiscio, citant Mao Ning, une porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. La Chine espère que les tensions seront gérées par les pays de la région à travers le dialogue diplomatique. L'IGAD, le bloc des pays est-africains, doit tenir une réunion extraordinaire le 18 janvier en Ouganda. Avec le protocole d'accord signé le 1er janvier, le Somaliland, qui a autoproclamé son indépendance en 1991, va octroyer à l'Éthiopie l'accès à 20 km de ses côtes pour une durée de 50 ans. Addis Abeba a indiqué que cela va lui permettre de bénéficier d'une base navale permanente et de services maritimes commerciaux sur le golfe d'Aden. Le gouvernement somalien, qui n'a pas d'autorité sur le Somaliland, a promis de s'opposer par tous les moyens légaux à ce qu'il considère comme une agression et une violation flagrante de sa souveraineté. Deuxième pays le plus peuplé d'Afrique, l'Éthiopie cherche depuis 30 ans un accès à la mer qu'elle a perdue après l'indépendance de l'Érythrée en 1993.
Le CES, Salon international sur les dernières innovations technologiques, doit se terminer aujourd'hui à Las Vegas. Cette année, les Chinois sont vraiment de retour. Le point avec Michel Joseph.
Des centaines d'entreprises chinoises ont répondu présentes. Sur les quelques 3500 exposants au CES, environ 500 viennent de Chine. C'est plus que l'année dernière, mais toujours moins qu'avant le Covid, selon la Consumer Technology Association, gestionnaire du salon. Des géants de l'industrie chinoise comme TCL et Hisense ont fait sensation avec des téléviseurs impressionnants, tandis que des entreprises moins connues ont exposé aux robots, drones, câbles de recharge ou encore des ventilateurs sans pales. Le partenariat entre TCL et la Ligue nationale de football américaine, la NFL, a été un des sujets majeurs d'une conférence de presse du CES en présence de légendes du sport américain. Les puces électroniques sont toujours au cœur des frictions commerciales entre les deux grandes puissances mondiales. Cette technologie est très éloignée de celle présente dans les nombreux gadgets présentés lors du CES utilisant l'intelligence artificielle, comme des traqueurs d'animaux, des lits dits intelligents, en passant par des biberons et des vélos électriques.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VO Afrique et voafrique.com. À présent, les dernières nouvelles économiques en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco avec Nathalie Barge.
En Ouganda, les autorités vont détruire 5,6 millions de doses périmées de vaccins anti-Covid pour une valeur de 6,7 millions d'euros, selon un rapport présenté au Parlement. Ces vaccins avaient été importés dans le cadre d'un prêt de la Banque mondiale. Le rapport dit que des fonds ont été obtenus de Gavi, l'Alliance pour l'accès aux vaccins des pays défavorisés, pour la récupération de toutes les doses périmées et leur destruction. Selon les données de la Banque centrale de Tunisie, les transferts d'argent des migrants tunisiens ont atteint 2,43 milliards de dollars en 2023, une hausse de 2% par rapport à l'année précédente. Ces fonds constituent la deuxième source de devises après les recettes des exportations, dépassant celles du tourisme. Les Tunisiens à l'étranger sont environ 1,3 million, essentiellement en Europe et dans les pays du Golfe. Et selon une estimation de la Banque mondiale, la croissance économique en Afrique subsaharienne devrait atteindre 3,8% en 2024. Celle des deux principales économies devrait être inférieure à la moyenne régionale, soit 3,3% pour le Nigeria et 1,3% pour l'Afrique du Sud. Les pays moins pourvus en ressources naturelles devraient maintenir un taux supérieur à la moyenne, soit environ 5,4%. Le revenu par habitant devrait augmenter de 1,2% en moyenne.
Et nous voici en sport. Eric Manirakiza est au rendez-vous. Bonjour Eric.
Bonjour John.
Le moment tant attendu de la fête du football africain, c'est dans quelques heures Eric. La CAN 2023 s'ouvre demain samedi en Côte d'Ivoire.
Tout à fait, John. La Coupe d'Afrique des Nations débute ce samedi par un match entre les éléphants de la Côte d'Ivoire et la Guinée-Bissau. Notre envoyé spécial à Abidjan, Yacouba Ouedraogo, donne quelques précisions sur ce match d'ouverture.
À 24 heures du match d'ouverture de cette 34e édition de la CAN entre le pays hôte et la Guinée-Bissau, la ferveur monte à Abidjan. Un tour au palais de la culture de Trècheville, ici, les journalistes étrangers récupèrent leurs accréditations. Selon les responsables sur place, sur environ 5000 demandes d'accréditation soumises par les professionnels de médias, quelques 3000 ont été approuvées. Tout se passe bien pour certains, tandis que pour d'autres, ça coince.
En ce qui me concerne, tout s'est bien passé. J'ai pas eu de soucis au niveau de la récupération de mon badge.
Yannick Fotso, journaliste de Camerfoot.com.
Mon collègue a eu un souci. On fait savoir que le numéro qui est sur l'accréditation qu'il a tiré, venant de la Confédération africaine de football, ne se trouve pas dans la machine.
Bayou Maxime est un opérateur graphique de la CAF.
Vous êtes là pour récupérer votre badge. Est-ce que tout s'est bien passé?
Pas tout à fait, parce que j'ai pas encore récupéré mon badge à proprement parler. Il manque la photo, donc j'attends pour mettre ma photo dessus.
Face aux Diotos de la Guinée-Bissau, petit poussé de la poule A, les Ivoiriens voudront faire le plein de confiance en s'imposant au stade Alassane Ouattara d'Ebempe pour le match d'ouverture. Samedi, ça ne fait aucun doute, tout un peuple sera derrière ces éléphants. Yacouba Ouedraogo, Bagassi Koura, Abidjan, VOA Afrique.
Et dans son coup de sifflet, John, Jules Valentin Ngwe nous rappelle le parcours historique des éléphants, soulignant également les prétendants de cette 34e édition de la CAN.
Bonjour. Ça y est, la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations commence samedi avec le match d'ouverture qui va opposer dans la poule A d'Abidjan, la Côte d'Ivoire, le pays organisateur, à la Guinée-Bissau, un des outsiders du groupe. En 1984 déjà, forte d'une présence régulière au sommet, grâce à la génération talentueuse des Pokou, Manglé et autres Calais, la Côte d'Ivoire avait organisé un premier rendez-vous afin de valider l'essai, mais sa jeune formation de l'époque était tombée dans une poule injouable où l'on retrouvait le double champion égyptien et un Cameroun de retour sans défaite du Mondial espagnol de 1982 et qui, fait inédit, comptait dans son effectif avec Milan, Kono et Abega pas moins de 3 ballons d'or en activité. Le pays hôte ne réalisa pas l'exploit. 40 ans après, la Côte d'Ivoire reçoit de nouveau le Gotha du football africain, mais sa pression sportive est moindre dans une édition qu'elle a minutieusement préparée, puisqu'elle a gagné le trophée à 2 reprises en 1992 et 2015. Cependant, l'attente du public qui veut son sacre à domicile ne faiblit pas. Ce ne sera pas facile, tant le nivellement par le haut du football africain est désormais manifeste. les Marocains, de retour d'un mondial de rêve, les Sénégalais, en quête d'un doublé, la talentueuse Algérie de Mahrez, la conquérante Égypte de Salah, le Nigeria d'Osimhen, le ballon d'or en titre, sans oublier le commando camerounais, sont bien présents. Vous l'avez compris, les joutes seront alléchantes, incertaines et le suspense entier. Vivement que la fête commence. À bientôt.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. John Lyndon, toujours en votre compagnie. Place au dossier du jour. Et on commence par la République démocratique du Congo, où le fleuve Congo a atteint son niveau le plus élevé depuis plus de 60 ans. Une situation qui provoque des inondations dans le pays et en République du Congo voisine. Le dernier bilan établi par les autorités fait état de plus de 300 personnes tuées au cours des derniers mois dans les deux pays. Le point avec Thierry Kaoré.
Le niveau du fleuve Congo a atteint 6,20 mètres au-dessus du niveau de la mer mercredi dernier, soit un peu moins que le record de 6,26 mètres enregistré en 1961, selon les autorités. Dans ce quartier de Kinshasa, les résidents pris au piège se débrouillent comme ils peuvent sur des pirogues et des embarcations de fortune.
Nous aidons les gens à se déplacer avec nos pirogues pour leur permettre de trouver quelque chose à manger, surtout ceux qui sont encore coincés dans les maisons. Nous les aidons à se rendre sur la route principale pour trouver d'autres moyens de transport.
Des rues inondées, non seulement par l'eau, mais aussi par des bouteilles en plastique et d'autres débris. L'activiste du climat, Passou Onima Ketsia, qui diffuse la scène en direct à partir de son téléphone portable, pointe du doigt les autorités.
Je ne suis pas très étonnée de voir que le niveau d'eau augmente à ce point. Ce qui m'étonne le plus, c'est de voir à quel point il n'y a aucune mesure qui est prise pour toutes ces familles qui sont en train de subir juste les effets du changement climatique qui se manifeste par de fortes inondations. Ce qui me fait le plus de peine, c'est qu'aujourd'hui on en arrive là et que des enfants, des jeunes, des familles entières sont censées subir des catastrophes auxquelles ils s'y attendaient les moins et qu'il n'y a aucune mesure qui a été prise pour les aider à surmonter cette épreuve en fait.
La mauvaise planification urbaine et le manque d'infrastructures d'assainissement ont rendu certaines parties du pays vulnérables aux crues soudaines, devenues plus fréquentes en raison du changement climatique.
On a comme l'impression que les gens sont abandonnés à eux-mêmes, ils construisent où ils veulent, comme ils veulent. Il n'y a pas d'urbanisation, il n'y a rien qui se fait, il n'y a pas de caniveaux qui sont prévus. Et même s'il y a des caniveaux, ils ne sont pas entretenus.
Le ministre des Affaires sociales et humanitaires de la RDC, Modeste Mutinga, a déclaré à Reuters qu'une réunion se tiendrait ce jeudi 11 janvier pour évaluer l'aide humanitaire supplémentaire. Des voix s'élèvent également pour réclamer la création d'un fonds pour les catastrophes naturelles. Près de 300 personnes sont mortes et 300 000 ménages ont été touchés par ces inondations, avec des dizaines de milliers de maisons détruites.
24 nations, 52 matchs, un seul champion à désigner. Du 13 janvier au 11 février, vivez sur VOA Afrique, la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, Côte d'Ivoire 2023. Avec nos envoyés spéciaux sur place et nos équipes ici à Washington DC, nous vous proposerons des reportages, des interviews et des rubriques spéciales dans chaque édition de nos journaux. La CAN 2023, c'est sur voaafrique.com et sur nos plateformes sociales où vous pouvez nous laisser des commentaires. Jouons tous ensemble sur le terrain de VOA Afrique.
Au Burkina Faso, la récolte du coton est dans l'impasse dans certaines zones de grande production. Des hommes armés rôdent autour des champs et n'hésitent pas à brûler les récoltes. Le reportage de Alidou Ouedraogo, notre correspondant dans la région cotonnière de Houndé.
Le village de Koumbia est à seulement 70 km de Bobo-Dioulasso. En cette saison des récoltes, le champ de François Tani est couvert de blanc à perte de vue. 9 hectares de coton qui cherchent encore des travailleurs pour récolter.
Puis ça, c'est dans mon champ, mais il n'y a pas de gens pour récolter. Et comme je l'ai dit, les récoltes sont actuellement difficiles.
François Tani explique pourquoi il n'arrive pas à jouir des fruits de plusieurs mois de très dur labeur.
Quand on met du goût, le pourri, paix, les diadiques là sont vraiment dans la zone. Ils ont brûlé les tas de choses, les tas de coton, ainsi de suite. Donc vraiment, c'est pas facile.
En plus des récoltes qui sont brûlées à cause de l'insécurité, certaines zones de grande production ont été désertées par les populations. Naboho Wilodio a fui son village et son champ pour se réfugier à Houndé.
À plusieurs endroits, le coton est prêt à la récolte, mais les gens ont peur d'aller. Au village où moi je vivais, très peu ont cultivé. Pourtant, c'est une grande zone de production. C'est la grande difficulté.
À Bobo Dioulasso, nous avons rencontré le président de l'Union nationale des producteurs de coton du Burkina, Nikiebo Kambi.
Il y a des gens qui ont abandonné les champs. Après avoir utilisé tous les intrants possibles, ils ont été chassés, dégarpés de les champs. Donc les champs sont restés comme ça. Donc on a un certain nombre, comme je n'ai pas les chiffres ici, on a un certain nombre d'hectares qui sont délaissés parce qu'on les a dégarpés dans leur village. Actuellement, nous sommes dans les récoltes. Il y a des gens, on vient même brûler des tas de coton. Il y a des coins même qui sont allés déjà brûler du coton avec des camions qui sont déjà chargés.
De concert avec les forces de défense et de sécurité, l'Union nationale des producteurs de coton du Burkina tente de sauver ce qui peut encore l'être.
On espère que les VDP et les forces de l'ordre vont veiller. Parce qu'à chaque moment, on a un comité de veille qui va communiquer directement avec les forces de l'ordre quelles sont les difficultés dans tel lieu précis et aussi se rendre en action pour vraiment sauver ce qu'on peut sauver.
Malgré toutes ces difficultés que la filière coton rencontre, le président de l'UNPCB se veut optimiste et cherche à rassurer que la saison ne sera pas catastrophique. Ali Douedraogo, Koumbia, depuis Houndé et Bobo Dioulasso, pour VOA Afrique.
Restez branchés sur VOA Afrique à Ouagadougou sur 102.4 FM au Burkina Faso.
Au Togo, c'est la tristesse et l'émoi au sein de la communauté catholique et de la classe politique après l'annonce du décès de l'archevêque émérite de Lomé, Monseigneur Philippe Fanoko, figure de proue de l'Église catholique. Il est aussi connu pour avoir présidé la conférence nationale en 1991, soutien de l'opposant Agbeyome Kodjo lors de l'élection présidentielle de 2020. Le prélat vivait en exil en Suède depuis 2021, où il s'est éteint à l'âge de 93 ans. De Lomé, notre correspondant, Kossi Oussou.
Christian Ignacio Barriga, fidèle catholique et journaliste à Radio Maria Togo, est triste du décès de l'archevêque émérite Monseigneur Kodjo. Très proche du prélat, il écrivait un livre sur sa vie.
J'ai eu la chance parce que, étant à Radio Maria, quand il écoute mes émissions, il fait partie de ces personnes qui m'appellent pour m'encourager. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'a valu cette belle proximité avec lui. Et c'est là où l'idée m'est venue d'aller chez lui et de lui proposer un livre sur sa vie. Et ce qu'il a accepté volontiers. Et chaque mercredi, entre 8h et 11h, je suis chez lui. Il a tellement d'histoires, si Dieu le permet, on pourra sortir un jour ce livre.
Un livre qui évoquera certainement la dimension politique du prélat. Pour Jerry Tama, député à l'Assemblée nationale, Monseigneur Kodjo est un homme de conviction.
Le message que ce personnage nous laisse en quittant la terre, c'est que quand vous avez des convictions, ayez le courage de ces convictions, quelle que soit l'opposition que vous avez en face de vous, ayez le courage de ses convictions et tenu jusqu'au bout. On peut ne pas être d'accord avec lui sur certains sujets, mais il avait ses convictions. Et quand il les avait, il les tenait jusqu'à aller se retrouver dans des conditions assez difficiles.
Kafuya Jamagbo Johnson était la coordinatrice de la DMK, coalition de partis politiques qui portait le nom du prélat lors de l'élection présidentielle de 2020. Elle ne digère pas la mort en exil de ce dernier.
Nous sommes en colère parce que nous sommes de ceux qui ont tout fait pour que le régime comprenne qu'un peuple digne de ce nom ne peut pas laisser un vieillard de plus de 93 ans en exil. Nous avons tout fait pour que par humanisme, au moins, on puisse créer les conditions pour qu'il retourne chez lui. En réponse, on a répondu avec beaucoup de légèreté.
Accusé d'être à la base de l'exil de l'archevêque, les autorités togolaises, qui n'ont pas encore réagi à l'annonce du décès, ont toujours estimé que Monseigneur Kodjo a décidé volontairement de quitter son pays et qu'il pouvait revenir quand il le voulait. Pour Gérard Adja de la DMP, le décès du prélat doit être une occasion pour les Togolais de continuer son combat et appelle à l'union sacrée de la classe politique.
Monseigneur Kodjo, c'est un grand éclaireur pour tous les Togolais. Pourquoi nous l'avions pas compris
ainsi, Monseigneur Kodjo n'a pas fait un combat pour un parti politique. Monseigneur Kodjo a fait un combat pour tous les Togolais. Je dis bien tous les Togolais, y compris ceux qui sont au pouvoir. Et nous espérons vraiment que sa mort amène les conditions pour que le Togo soit libéré.
Des voix s'élèvent déjà pour que la dépouille de Monseigneur Kodjo soit rapatriée au Togo pour des hommages mérités. Kossi Wusu, Lomé, pour VOA Afrique.
Salut! Retrouvez votre santé, votre avenir sur VOA Afrique tous les samedis, dimanches et mercredis à 8h30 temps universel. Votre rendez-vous hebdomadaire qui vous permet de mieux connaître les maladies et les dernières nouvelles concernant la santé dans votre région grâce à l'intervention des médecins et d'autres professionnels de santé ainsi que les témoignages des patients. N'oubliez pas, votre santé, votre avenir, c'est tous les samedis, dimanches et mercredis à 8h30, temps universel sur VOA Afrique.
La nouvelle année s'annonce difficile pour les vendeurs de rue au pont de Brooklyn à New York, car de nouvelles règles leur interdisant de vendre leurs marchandises sur le pont sont entrées en vigueur. Nina Vishneva s'est entretenue avec certains qui se demandent désormais où ils iront vendre leurs produits. C'est un récit de Blanche Sanou.
Le pont de Brooklyn ressemblait autrefois à ceci. Casquette de baseball, jouets en peluche, sac en toile et snack. Mais la ville de New York vient tout juste de commencer à appliquer une nouvelle loi interdisant aux vendeurs d'accéder à l'allée touristique, historique et populaire. Selon la Metropolitan Transportation Authority, quelques 10 000 piétons traversent chaque jour le pont de Brooklyn. Le week-end et les jours fériés, ce nombre atteint 30 000. Mais ces dernières années, les autorités ont déclaré qu'il y avait trop de vendeurs. Et le maire, Eric Adams, a déclaré que la ville était obligée de réagir.
C'est une question de sécurité publique. Les gens sautaient par-dessus le pont et sur la piste cyclable parce qu'ils étaient confrontés à un blocage.
Emdi Rahman vend des hot dogs sur le pont de Brooklyn depuis 2008 grâce à des licences délivrées par le ministère de la Santé et de l'Hygiène de la ville de New York.
J'essaie de gagner ma vie et de survivre. J'essaie de payer mes factures. Si je perds mon emploi, que feront mes deux enfants et ma femme et moi?
Patrick Delamore est un vendeur et un vétéran des gardes-côtes américains. Étant en possession d'une licence de fournisseur, les anciens combattants bénéficient de certains avantages.
Aujourd'hui, le maire supprime le seul moyen pour les anciens combattants de gagner leur vie. Je survivrai bien, mais certaines de ces personnes souffrent d'un grave syndrome de stress post-traumatique à cause des combats, de la guerre. Et il leur enlève leur seul travail.
Mohamed Atia était également vendeur ambulant. Aujourd'hui, il est directeur général du Street Vendor Project et son objectif est de convaincre le maire Adams de revenir sur sa décision.
Nous demandons aux gens de trouver d'autres emplacements. Nous pourrions les aider à trouver un nouvel emplacement légal, viable.
Le vendeur de souvenirs, Jatsu Lama, espère qu'il n'aura pas besoin de bouger. Son chariot est positionné juste à l'extérieur de la zone officielle de non-échange.
Je suis arrivé en Amérique en 1998. Pendant un an, j'ai travaillé ailleurs. Et depuis, je bosse ici. Je travaille dur, je nourris mes enfants. C'est comme ça que j'ai envoyé 3 de mes fils à l'université.
Un groupe de 15 vendeurs ambulants, parmi lesquels des anciens combattants et des personnes handicapées, ont intenté une action en justice contre l'administration municipale concernant l'interdiction des vendeurs sur le pont de Brooklyn. Ils affirment qu'empêcher les personnes handicapées de travailler viole la loi de l'État de New York. Il ne s'agit pas seulement du pont de Brooklyn. La nouvelle ordonnance s'applique à l'ensemble des 789 ponts gérés par le ministère des Transports.
Alexandrine Rolonio avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, la prochaine élection présidentielle aux États-Unis, le président Joe Biden est soit à la traîne, soit au coude à coude avec son prédécesseur Donald Trump dans une série de sondages récents, tandis que son taux d'approbation est le plus bas de tous les présidents modernes à ce stade de leur mandat. Pendant ce temps, Donald Trump, favori pour l'investiture républicaine à la présidentielle 2024, doit être jugé à Washington le 4 mars pour conspiration en vue de renverser l'élection de 2020 remportée par le démocrate Joe Biden. Quels sont les principaux enjeux de cette présidentielle aux États-Unis? Rendez-vous ce jeudi à 19h, temps universel sur VOA Afrique et voafrique.com, en rediffusion samedi et dimanche.
Le Monde aujourd'hui, fin de cette édition réalisée avec la contribution de toute la rédaction. Présentation John Linden, production Fatouma Kalala Alimassi. Merci à vous d'avoir suivi et restez connectés sur notre site internet voafrique.com et sur nos réseaux sociaux pour plus d'informations 24 heures sur 24. À bientôt.